Vous écoutez
RMC. RMC. Les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ce matin par les GG. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport à la dernière place. Ah, c'est le nouveau venu, forcément, il faut apprendre. Même si j'adorais ce débat, Clarisse Agbenienou.
C'est le meilleur débat, c'est dommage. C'est dommage, on n'est pas compris du grand public quand on est talentueux.
17% pour toi, mon cher Fred, tu repasseras la prochaine fois.
C'est dommage, j'aurais bien aimé.
Mais ça veut dire que je suis déjà invité, t'entends la prochaine
non,
fois
mais j'aurais bien aimé revenir. Entendre quelqu'un du monde du judo s'exprimer là-dessus. Moi, ça m'aurait vraiment intéressé.
Il fallait voter pour moi, monsieur.
C'était un bon débat. Ça.
Ah ouais, ouais.
21% ouais. Pour le chaos sur le tour de l'Algarve pour toi, Christophe.
21%, je suis à 23%.
21%.
Non, je suis à 23%. Là.
24%.
Non, je refuse.
On sent que tu as perdu. 24% non, pour les 23 équipes sur le tour de France et favoriser nos équipes françaises. Deuxième place pour toi, mon cher Marc Madio.
On
la victoire.
La view, alors.
Voilà, reprends tout ça. La victoire pour.
Et le drapeau
Simon
à damier, bien sûr.
Lewis Hamilton, peut-il devenir le GOAT? Va-t-il s'imposer chez Ferrari? On t'écoute.
Bah, c'est une question que je me pose. Moi, j'aime bien. Je connais peu la Formule 1, mais j'aime bien justement lorsque un pilote de cette dimension, il n'y en a pas eu tant que ça, signe chez Ferrari. C'est toujours un événement. On se souvient de Schumacher qui était arrivé justement dans cette écurie mythique et qui avait réussi à faire gagner Ferrari, qui avait toujours ce prestige à l'époque, mais qui gagnait plus rien. Bon, c'est le transfert le plus excitant de ces 15-20 dernières années en Formule 1. Lewis Hamilton, c'est 7 titres de champion du monde. On se demande s'il est le meilleur pilote de tous les temps. Il y a toujours des gens pour te dire, ouais, mais il avait la meilleure bagnole. Tu sais, c'est un argument qui revient souvent. Il avait la meilleure voiture. Ok, il est très doué. Bon, voilà. Est-ce que si d'aventure, parce qu'on a vu que Leclerc et Sainz, même avec les améliorations de la voiture l'an dernier, n'était pas en mesure d'inquiéter Verstappen. Si d'aventure Lewis Hamilton remportait le titre de champion du monde des pilotes avec Ferrari,
tu crois vraiment
je manque d'expertise pour savoir si la voiture est assez développée ou pas. Il y aura un changement de règlement qui va rebattre les cartes. Si d'aventure dans les 2-3 années qui viennent, il devait remporter le titre des pilotes. Avant la fin de sa carrière, ouais. Grosso modo, est-ce que si Lewis Hamilton devient champion du monde des pilotes avec Ferrari, la mythique Scuderia, est-ce que on pourra dire qu'il est incontestablement le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1.
Voilà. Ok, bah vous pouvez répondre. Je sens que ça intéresse Marc Madio. Marc.
Ouais, il y a un beau suspense en jeu avec l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari. Maintenant, je suis quand même un peu inquiet pour lui dans la mesure où chez Mercedes face à Russell, il avait quand même des difficultés pour être le number one. Russell n'a pas été encore champion du monde jusqu'à maintenant, mais il a quand même souvent fait des meilleurs temps, notamment aux essais par rapport à Hamilton. C'est un vrai challenge qui se passe. C'est un qui tout double un petit peu pour Hamilton. Il arrive chez Ferrari. En face de lui, il y a un pilote qui n'a pas été champion du monde non plus, mais qui est quand même très opérationnel. Leclerc, c'est un très bon. Donc, si la voiture est bonne, on va avoir du grand spectacle. Après, il a l'expérience pour lui. Il aura peut-être plus tout à fait la même pointe de vitesse, mais il aura quand même l'expérience pour lui pour faire le match avec Verstappen si la Ferrari est opérationnelle. Et je pense qu'elle va être opérationnelle.
Moi, je pense que Leclerc va prendre le dessus sur Hamilton,
logiquement,
par sa connaissance de la voiture, de par sa fougue, sa jeunesse, il n'a pas encore tout gagné, il rêve de gagner et il rêve de se mesurer à Hamilton et de battre le GOAT.
Pour tout pilote, quel qu'il soit, un passage chez Ferrari, c'est quand même le sommet d'une carrière. Tout pilote de F1 qui n'a pas été chez Ferrari n'a pas fait le parcours complet. Et je pense que pour Hamilton, il y a le côté mythe
Mais est-ce que ça suffit,
c'est pas sûr. Mais au moins.
Non, mais est-ce que ça suffit d'avoir assouvi ce rêve? C'est-à-dire, où est-ce qu'on attend autre chose maintenant?
Il est évident pour Hamilton que c'est un qui tout double. S'il réussit à être performant, et ce d'entrée de jeu, parce que je pense que dès les premiers Grands Prix, il va y avoir une tournure de prise. Et s'il est opérationnel et très compétitif dans la lutte pour le titre, ça restera dans l'histoire.
Mais bon.
Sinon, il va vite être en difficulté.
C'est énorme d'avoir pris ce risque-là quand même.
Ouais,
c'est l'objectif.
C'est pour ça que je pose la question.
Ouais,
je pense que c'est ça qui est magnifique.
Il se fait plaisir aussi.
Oui, mais c'est aussi ce qui permet de passer dans une autre dimension, tu vois, de s'associer à Ferrari qui est mythique. Parce que c'est là où tu vraiment. Parce que l'adaptation, elle va être incroyablement difficile quand même. Et s'il arrive à basculer sur de la performance directe, franchement, là, on est sur l'un des meilleurs de tous les temps.
Bah, de toute façon, quoi qu'il se passe, il est quand même un des meilleurs de tous les temps.
Ouais, mais. Je vois, il touche. Je trouve que là, tu dépasses le quelque chose. Toi, le GOAT, c'est vraiment.
Tu vois, là, tu touches le symbole. La mise en scène qu'il y a autour de son arrivée, le costume, parler en italien et tout. On voit bien que c'est. Quand on arrive chez Ferrari, on n'arrive pas chez McLaren, on n'arrive pas chez Alpine. Voilà.
Les copains, on reparlera de Lewis Hamilton, de Ferrari. Le début de la saison, c'est dans un mois, un peu moins d'un mois, c'est le 16 mars prochain avec le Grand Prix d'Australie. Il nous reste une minute, je voudrais juste profiter. C'est un petit cadeau au nouveau venu. Il nous a proposé un débat qui était passionnant sur Clarisse Agbenienou. Je voulais juste savoir les tenants, les aboutissants de cette affaire parce qu'elle a refusé et elle refuse de participer aux Mondiaux, mais elle discute en ce moment avec la Fédération. Je voudrais juste que tu nous dises un mot sur cette histoire un peu particulière.
Bah, l'histoire qui est particulière, qui est cachée entre guillemets, derrière Clarisse, c'est la gestion des monstres sacrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu un événement hors du commun qui sont les Jeux Olympiques de Paris et on a des athlètes hors du commun, Teddy Riner, Clarisse Agbenienou, qui se connaissent par cœur, qui sont forcément aiguisés sur leur propre chemin, leur propre perspective et leur propre performance. Et puis, tu as un système à faire avancer. Tu as la manager, tu as l'entraîneur qui forcément ont une vision plus collective et qui doivent faire avancer aussi des jeunes et sélectionner des jeunes pour un championnat d'Europe qui, aujourd'hui, n'était pas prévu dans la continuité pour Clarisse qui, elle, voulait faire ce championnat d'Europe. Donc, si tu veux, le sujet, il était autour de cette dualité et la grande difficulté de gérer des athlètes et surtout de gérer des stars qui se connaissent par cœur. Et c'est vrai que c'est un sujet très complexe et aujourd'hui, Clarisse se connaît très bien, elle a des envies, le système doit fonctionner avec plusieurs athlètes et donc on est en friction permanente.
Est-ce que ça finit pas par agacer le reste de l'équipe de France, les desiderata, les caprices, disent certains, de la grande championne qu'est Clarisse ?
Je pense que ce qu'il ne faudrait pas avoir, c'est cette modalité que tout caprice, alors c'est le mot, moi je connais bien Clarisse, donc je sais que c'est vraiment une volonté qui est basée sur quelque chose de réfléchi, mais en tout cas de vouloir tout le temps quelque chose pour soi, il faut vraiment atteindre le très très haut niveau et un profil de champion hors du commun. Clarisse est 6 fois championne du monde, Clarisse est 5 fois championne d'Europe, elle est multimédaille olympique avec
décider.
Elle est hors du commun. D'accord. Donc d'avoir un besoin hors du commun et une volonté, c'est intelligible et c'est compréhensible. En revanche, tout le monde n'est pas 6 fois champion du monde.
Ok, ça se passera en juin prochain pour eh bien ces Mondiaux. Clarisse Agbenienou ne devrait pas y participer, mais c'était important de t'entendre sur ce sujet, mon cher Fred.